Melody, la radio vintage forever.
Il a longtemps parlé de Joe Dassin à la troisième personne, comme s'il fallait apprivoiser doucement cette figure à la fois paternelle et mythique. Dans Il était une fois nous deux, Julien Dassin prend enfin la parole à la première personne. Un récit tendre et pudique dans lequel il raconte son histoire, celle d'un fils qui, après la disparition de sa maman, a endossé un rôle aussi beau que lourd, celui de gardien du temple d'Assin. Depuis, Julien fait vivre les chansons de Joe aux quatre coins du monde. Il ne cherche pas à l'imiter ni à l'effacer, mais à faire vibrer encore ce lien unique entre une voix, une époque et un public qui n'a jamais cessé d'aimer Joe Dassin. Aujourd'hui, on parle de transmission, de souvenirs et de ce lien entre un père et un fils. Julien Dassin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Mélodie Radio.
Merci à vous de m'accueillir.
Vous sortez ce livre chez l'Archipel, Il était une fois nous deux, je le montre à la caméra, où vous racontez voilà, la vie de votre papa et la vôtre aussi.
Exactement.
Tous deux mêlés. Ouais.
De savoir, j'explique quel homme il était et un peu mon parcours dans ce métier. En suivant ses traces et son œuvre.
Ouais. Et pourquoi écrire aujourd'hui eh bien, ce livre? Pour rétablir quelques vérités au public? Ou est-ce une quête plus personnelle à la recherche de votre papa?
C'est un peu les deux. Il y a une quête, effectivement, sur l'homme qu'il était et pas que l'artiste. Et comme le public est très présent dans notre famille, c'est un peu un membre de la famille, j'avais envie de rétablir des vérités et de leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas.
Ouais, vous le dites souvent dans votre ouvrage, le public fait partie de votre vie, autant celle de votre papa que la vôtre aujourd'hui aux quatre coins du monde.
Complètement. Le public, c'est lui qui fait tout. Hein. Si aujourd'hui je suis aux quatre coins du monde pour chanter les chansons de mon père, c'est parce que le public me le demande.
Ouais.
Si un jour le public ne me demande plus, je ne serai plus là.
Ouais, et puis ça fait maintenant... Allez, peut-être une trentaine d'années que vous endossez le rôle de, vous l'écrivez dans le livre, de le costume de représentant de commerce de la famille Dassin.
Je suis un VRP
mais oui.
De la famille Dassin.
Et vous aviez conscience de cette ampleur à l'époque, en 95, quand l'autre...
C'est ce que j'explique souvent aux gens. Il n'y a pas un moment où on ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, au fait, je suis le fils d'eux, j'ai ça à faire. » Pour moi, tout ça semblait naturel.
Oui.
J'ai toujours travaillé sur ce catalogue, en partenariat bien évidemment avec la maison de disques, mais pour moi c'était quelque chose de normal.
Mmh.
Et quand on arrive dans l'adolescence, c'est là où on se rend compte que c'est pas normal.
D'être le fils
d'eux. Ah bah tiens, t'as une bonne note, c'est parce que t'es le fils d'eux.
Mmh.
Moi, mon père passait à la télé, c'était normal. Et je me suis vite rendu compte que de passer à la télé et de chanter devant des milliers de personnes, ça n'est pas une situation normale.
Bien sûr. Et puis, est-ce que vous avez grandi justement dans cette situation peut-être anormale de voir votre papa à la télévision, votre maman vous montrer des cassettes, des Carpentiers, je pense notamment avec
ça
votre papa.
Ça nous arrivait. Bah, à l'époque, il diffusait encore beaucoup d'émissions des Carpentiers, donc on les regardait,
okay.
Évidemment. Mais on n'a pas vécu dans le culte d'Assin.
Ouais, ça vous
pas...
le dites dans le livre.
Oui. C'était pas tous les soirs une émission de télé avant d'aller se coucher. Non, c'est bon. Quand ça passait à la télé, on le regardait. De temps en temps, on regardait aussi des vidéos, effectivement. Mais on était presque comme n'importe qui regarderait des vidéos de famille.
Ouais, c'était pas le culte.
Non, il n'y avait pas de culte.
Dans cette, alors je l'évoque rapidement, puisque vous en parlez souvent, dans cette grande maison de Flecherolles. Voilà, vous avez grandi jusqu'à vos 20 ans, je crois, après vous êtes parti.
20 ans, ouais, c'est ça. Jusqu'à 20 ans. Ah, Flecherolles, c'est toute une histoire. C'était son rêve. Il voulait, comme il a beaucoup, beaucoup voyagé, d'où la chanson « qu'il est loin, ton chemin, papa, le chemin, papa ».
Ou « Mon village au bout du monde » aussi.
« Mon village au bout du monde ». Ça, c'était plus pour Tahiti, ça.
D'accord, ok.
Il voulait vraiment créer une maison qui serait, comment on pourrait dire, une maison familiale où il aurait pu recevoir ses amis, sa famille, ses sœurs, son père... Et du coup, il a construit un truc absolument énorme. À l'américaine, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et c'était un gouffre. C'était un gouffre. L'entretien était... c'était un terrain. C'est même plus un terrain. C'est un chantier.
Bah oui.
C'est immense. Maison immense. Et mal foutue. Excusez-moi du terme. La chambre, je dis une bêtise, mais une chambre faisait peut-être 100 mètres carrés et un salon 20 mètres carrés.
Ok.
Ça a été mal foutu.
Vous alliez dans la cuisine, c'est ça?
Alors moi, je me suis réfugié dans la cuisine à la fin Parce que bah, la maison coûtait très 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 cher, ça se chauffait à l'électricité, alors vous imaginez les radiateurs des années 60.
Les convecteurs horribles.
C'est un truc qui consomme à mort, et je ne pouvais plus chauffer cette maison, ça coûtait trop cher.
Ouais.
Donc je me suis réfugié dans la cuisine qui, attention la cuisine c'était presque une maison, et c'était la seule pièce que je chauffais. Vous savez c'est un peu comme les châtelains, moi j'appelle ça les châtelains désargentés, ceux qui ont des châteaux qui gardent. Mais la toiture fuit, on peut pas la réparer. Il y a un moment, il faut savoir s'en séparer.
Ah ouais. Puis dans cette grande maison, je crois qu'il y avait une pièce qui vous tenait à cœur, si j'ai bien compris. C'était le...
La partie studio.
Ouais, où ça sentait le cigare. Ça, vous le dites bien là-dedans.
Ouais. En fait, il y a toujours eu une odeur que je pouvais pas qualifier spécifiquement. Et après, j'ai grandi... Et j'ai découvert l'odeur du cigare. Et je fais, mais c'est ça cette odeur. Mais 20 ans après, ça sentait encore le cigare.
Pour vous, c'était votre papa.
Et ben, pour moi, c'est ce qui me rapproche, oui, de lui. Ben, c'est inexplicable. Le cigare, c'est l'odeur du bureau de mon père, donc c'est l'odeur de mon père.
Et d'ailleurs, c'est intéressant cette notion de mon père, de Joe Dassin, même parfois Dassin, puisque dans le livre, vous expliquez que vous avez du mal en parlant de l'artiste, à l'appeler papa, je me doute bien, ou mon père, vous dites Joe Dassin.
Je dis Joe Dassin et très souvent je dis Dassin tout court.
Dassin, ouais.
Alors c'est peut-être quelque chose que j'ai repris aussi. Tiens, c'est la première fois que je le dis ça. C'est peut-être quelque chose que j'ai repris aussi de Mélina Mercouri, qui était donc l'épouse de mon grand-père Jules Dassin, qui appelait Jules Dassin.
D'accord.
C'était sa femme.
Ouais. Elle l'appelait Dassin.
Elle l'appelait Dassin. Alors peut-être que j'ai. Beaucoup, enfin c'est sûr, j'ai beaucoup entendu ça, et je l'ai repris, mais pour l'artiste. Quand je parle de Joe Dassin, l'homme en costume blanc, je dis Dassin.
D'accord, ouais. C'est un nom qui fait presque marque maintenant. Enfin, Dassin, c'est énorme, il est encore énormément apprécié aujourd'hui.
Et moi, je trouve ça incroyable que tant d'années après, on continue à l'écouter, à l'apprécier, mais il est toujours actuel, il est intemporel.
Ouais.
C'est des chansons, c'est le choix des chansons, c'est les mélodies, c'est des mélodies intemporelles, c'est des textes qui parlent à tout le monde. On peut tous se retrouver dans une chanson de Joe Dassin.
On va y revenir, mais ces chansons de Joe Dassin, vous vous êtes mis à les chanter à partir d'une rencontre que vous dites dans votre ouvrage, quand Gilbert Coulier vous propose de chanter vos chansons, de votre père.
Non, ça a commencé plus tôt.
Plus tôt, ok.
Ça a commencé plus tôt sur une émission, les duos de l'impossible.
Oui. On vous voit chanter, oui c'est vrai, face au...
Un écran, mais
avec
à l'époque
papa.
Ça se faisait pas.
Ouais.
C'était vraiment... Je me suis même demandé, quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit, comment les gens vont prendre ça ? Chose qui n'existait pas. Mais on arrivait à isoler les voix, on arrive à vraiment faire un duo de l'impossible. Et je me suis prêté au jeu et ça a marché, ça a plu aux gens. Et quelques années plus tard, je monte... En 2010, oui c'est ça, 2010,
ouais.
Je monte le spectacle « Il était une fois Dassin » avec Gilbert Coulier. Et on va en promotion chez Michel Drucker. Et il me dit, Michel me dit, écoute, il faudrait que tu me fasses le fameux duo. Je dis, non, je suis grand. Je dis, non. Il fait, si, fais-le. Je le fais, ça marche. L'émission se termine. Et là, Gilbert et Michel me prennent dans le bureau. Dans le bureau de Michel Drucker, il me dit, il faut que tu le fasses sur le spectacle. Je dis, oh non. À chaque fois, je dis non, mais à chaque fois, je finis dedans. Et je fais, ok, je veux bien essayer, mais si ça ne plaît pas, ça s'arrête.
Oui.
On fait ok.
Évidemment.
Ça a plu. Et après, le théâtre, après j'ai joué au théâtre.
Oui, vous faisiez du théâtre.
Je suis sorti de... Non, c'était même avant, je vous dis une bêtise, c'était avant le spectacle, le théâtre.
Ok. Vous avez fait Montant aussi, vous avez chanté chansons de Montant.
J'ai chanté des chansons de Montant, je faisais un spectacle autour des chansons françaises de Montant, de Piaf. Mmh. Et dans ce spectacle, j'avais mis deux chansons de Joe Dassin.
Ok.
Et le public me dit, mais non, il nous en faut une troisième, une quatrième, une cinquième. Et une fois de plus, la traînée de poudre est partie. Et ça finit que je fais le tour de chant complet Joe Dassin et qu'on part à travers le monde.
Oui, justement. Alors, à la base, vous n'étiez pas du tout... Enfin, vous n'êtes pas dit, je vais chanter chansons de mon, de mon
mais
père.
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. C'était pas... Moi, j'ai fait des études de droit et de commerce.
Ok.
J'aurais peut-être fini avocat ou je ne sais pas quoi d'autre.
Ouais.
Mais il n'était pas du tout prévu que je chante. C'est, ma vie, c'est une succession de surprises pour moi.
Ouais.
Je me suis retrouvé à faire ce duo par hasard. Je me suis retrouvé à faire ce spectacle sur scène
ouais.
par hasard. Et à faire un tour de chant complet français, de Joe Dassin, pardon, par hasard. Et le monde entier, bon, bah là, c'est peut-être plus du hasard, c'est peut-être que les gens aiment bien.
Ouais, bah ça m'étonne pas, puisque vous faites les quatre coins du monde avec les chansons de votre père, qui a beaucoup tourné aussi à travers la planète. Je pense notamment à la Russie, je pense à l'Amérique du Sud aussi, il me semble.
L'Amérique du Sud, ouais.
Et aujourd'hui, ça vous fait... Oui,
et alors, il y a un paradoxe. C'est aussi, peut-être que je suis en train de boucler une boucle.
Ah oui.
Mais mon père, qui était américain, n'a jamais eu de succès aux États-Unis et n'a jamais joué aux États-Unis.
Et vous en revenez, là,
les gens reviennent. Donc, au final, voilà, j'ai réussi à transporter ces chansons aux États-Unis, ce qu'il aurait rêvé faire, mais qu'il n'a jamais pu.
Et les Américains connaissent ?
Les Américains connaissent. Ils connaissent, je vous dirais pas par cœur, il y a beaucoup d'adaptations de chansons américaines.
Yellow River, l'Amérique...
Par exemple. Ouais. Donc, les gens connaissent les mélodies.
Ouais.
Mais ils ne connaissent pas forcément les textes et pas forcément le personnage.
Bien sûr.
Ah oui, puisqu'il n'a pas été aux États-Unis, c'est... Mais ils connaissent les chansons. Il y a une dame, lors du spectacle, qui vient me voir et me fait « Mais pourquoi vous nous parlez en français ? Et pourquoi vous chantez en français ?» Parce que je chante des chansons françaises. Non, c'est des adaptations, c'est des chansons américaines pour la plupart.
City of New Orleans, ça, c'est y en a qui me reviennent, là.
Oui, il y en a plein. Et j'ai fait, elle fait « Ah, mais on adore !» Je fais « Vous comprenez les paroles ou... ?»
Non. Non, non.
Mais ils adorent.
Ah oui. Est-ce qu'on peut dire tiens, que votre père, c'était le plus français des chanteurs américains et le plus américain des chanteurs français ?
Exact. C'est, je ne sais plus qui disait ça.
Ça a déjà été dit ?
Ça a déjà été voilà. dit.
Oui, oui, c'est bien,
et
oui.
Pour le monde entier, Joe Dassin est français.
Oui.
Mais il n'est pas français.
Et on est bien content. Je crois que derrière vous, on le verra peut-être sur un autre plan, il y a une jolie photo, Les Deux Mondes de Joe Dassin. C'est l'album aussi qui le représente
oui,
bien.
Tout à fait.
En américain. Avec le...
Et vous savez, quand il était à l'université du Michigan... Il chantait du Brassens et il disait aux étudiants, c'est du folklore français.
C'est bien trouvé en vrai.
Et là, il chantait en France du folklore américain.
En tout cas, on va écouter tout de suite. Allez, je vous ai préparé un petit medley des chansons de votre papa, puis après on continue de parler de ça.
L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Aux Champs-Élysées, on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo, de celle qui déjà est sûre que je t'oublie et qui ose dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit, de ton côté du lit.
Souviens-toi, c'était un joli. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas.
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis.
Moi j'avais le soleil jour.
Taka 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 taka.
de ses pas.
À toi, à la façon que tu as d'être belle, c'est fini pour très longtemps. Mais peut-être pas pour toujours. Et lui et Marie, jamais jeter quelque chose du pont de la gare. Ben voici le décor à l'envers, l'autre côté de la lumière. Sur une chaise, un costume blanc, une chanson déjà oubliée. Et sur les murs de la cité, des restes de publicité qui volent au vent.
Voilà, on a fait un petit medley là. Tant de chansons discutées vite fait. Des chansons qui ont marché, des chansons que le public aime. Vous me dites, on a tous une chanson de Joe Dassin.
On a tous une histoire avec une chanson de Joe Dassin. Je crois qu'il n'y a pas une personne, si vous traversez les Champs-Élysées,
ouais, qui la fredonne.
De haut en bas, je pense qu'il est impossible de ne pas croiser quelqu'un qui la fredonne.
C'est fou.
C'est l'ambassadeur des Champs-Élysées à travers le monde.
45 ans après.
Ouais.
C'est fou.
C'est fou, hein.
Dans le monde entier.
Ils l'apprennent à l'école, les enfants... apprennent les Champs-Élysées à l'école.
En France, oh oui, en France,
mais même à l'étranger.
Même à l'étranger, même pour à apprendre l'étranger. Le français.
Pour apprendre le français, on fait apprendre le français sur des chansons de Joe Dassin, particulièrement les Champs-Élysées.
Il y a un amour inconditionnel entre le public et votre père. Est-ce que c'est quelque chose qui cultivait, tiens? Est-ce que c'est il comment dire? Est-ce qu'il se sentait très proche de son public?
Ah oui.
C'était la ce que je vous faire dire, ce que je veux vous faire dire. Pardonnez-moi. Vous le dites dans le livre. La scène, c'était tout pour lui. C'est un grand perfectionniste.
Être devant son public, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Être en studio, c'est bien. On est dans sa petite boîte. On est entre nous. Mais il y a pas de. On n'échange rien. On échange avec un ingénieur du son.
Bien sûr.
Mais vraiment, pour avoir le succès d'une chanson, c'est le public qui fait le succès d'une chanson. Et quel est le meilleur endroit pour voir la réaction du public? La scène.
La scène. Et 45 ans, encore une fois, après sa disparition, il y a eu un... On va en parler, parce que ça, je sais que c'est un sujet, vous m'avez évoqué vite fait. Il y a eu une chanson qui, pourtant, n'a pas été un tube à l'époque.
C'est dingue, hein.
Et qui est devenue l'hymne de toutes les fêtes. Je peux vous jurer, on le voit partout, danse là-dessus, c'est dans les yeux d'Emily.
Exact. Alors, qui n'a pas eu un énorme succès à son époque, qui est maintenant, on ne sait pas... C'est la magie aussi de la musique, hein. C'est un jour, on ne sait pas pourquoi, paf, il y en a une qui sort. Et c'est le cas des yeux d'Emily. Et je vois les gens faire la fête. Alors, je suis ravi, parce que la mélodie est rythmée, tout est sympathique. Mais c'est une chanson triste, mélancolique.
Chanson de rupture.
Une chanson de rupture. Et je vois les gens s'éclater, il n'y a pas d'autre mot. Dans les férias, dans les stades.
Et partout, à la fête de la musique,
c'est un peu comme cette américaine, vous comprenez les paroles? Vous savez,
ah oui,
l'américaine
c'est l'américaine
dont je vous
oui,
parle.
Pardon,
excusez-moi. Non,
mais c'est bien.
C'est bien. Et bien là, c'est pareil. C'est une rupture.
C'est fou, une chanson de rupture. Je crois que c'est une rupture au Québec, c'est
au
ça?
Au Québec, ouais.
Entre un amour impossible au Québec. Et ça, c'est la force de... Alors, qui... Ah, je ne sais plus qui l'a écrit, celle-là.
C'est
Claude, Lemel.
C'est encore Delanoë et Lemel. Hein.
Delanoë et Lemel. Ah, ouais. Allez, on va glisser doucement. On va revenir à Claude Lemel juste après. Tiens, je voulais vous poser une question par rapport à Dans les yeux d'Emily. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la jeune génération écoute encore Joe Dassin? C'est indémodable. Et je ne dis pas ça pour vous flatter.
Les
hein.
mélodies sont non, les mélodies. Pas vieillies. Vraiment, elles sont intemporelles. Et les paroles, les textes, tout le monde se retrouve dans un texte de Joe Dassin.
Ouais.
C'est beaucoup de chansons mélancoliques, de chansons d'amour. On a tous vécu une chanson d'amour, une histoire d'amour ou un chagrin d'amour.
Ouais.
Le nombre de personnes qui viennent me voir à la fin des spectacles et qui me disent « Ah, je me suis marié sur cette chanson, j'ai rencontré mon mari sur celle-là. » Ils ont tous une histoire.
Ouais. Et souvent, les histoires viennent d'un monsieur derrière son bureau, de monsieur Claude Lemel, qui a écrit pas mal, avec Pierre Delanoë,
avec
bien
Pierre
sûr,
Delanoë.
Pas mal de chansons pour votre papa, dont le fameux « Salut les amoureux ». Et vous dites quand on écoute les chansons de Joe Dassin, il faut demander à Claude Lemel de... en fait, c'est les chansons... C'est
voilà. Non, c'est Joe Dassin qui disait...
Voilà, c'est ça. Merci.
« Je ne chante pas mes chagrins d'amour, je chante les chagrins d'amour de Claude Lemel ».
Ouais, c'est bien trouvé.
Parce que bah, salut les amoureux, c'est lui. Hein. C'est
ton côté du lait aussi. Mais...
Avec Alice Donna. Alice ouais. Donna et le Mel. Rien. Et, puis, et bien évidemment, Toto Cutugno.
Ah oui, pour l'été indien.
L'été indien, et si tu n'existais pas, salut. C'était pareil, c'était une belle association, ça.
Des musiques qui venaient de l'Italie, Albatros, c'est ça?
Le groupe s'appelait Albatros.
Albatros, ouais.
L'été indien s'appelait Africa. Et ça a été complètement modifié. Hein. Ça parlait d'un immigré. Ça,
oui, d'un plus... noir qui retournait dans son. Immigré noir américain qui retournait.
Exact.
C'est ça.
Et bon, cette chanson n'a pas marché. Alors que c'est la même. Hein.
Ah, Africa.
Africa.
Oui, oui, oui.
Il était indien, pardon, excusez-moi.
Ok, je vous en prie.
Et la magie.
Ouais.
De l'été indien. Alors, pareil, une histoire sur l'été indien, c'est. Il l'a enregistré, ils ont fait peut-être 30 prises. Ils ont gardé la première. Ils ont gardé la première prise, et... parce que la première était juste parfaite.
Là aussi, c'est un slow, mais c'est aussi une chanson de rupture. Hein.
Ben oui.
Dassin sur la plage qui recherche son amour.
Ouais, c'est un vieux, vieux clip.
Oui.
Les vieux clips. Il était sur un bateau aussi. Je ne sais pas si c'est dans le même.
On l'a, oui, je me suis posé la question si c'était à Cannes. D'ailleurs, on le diffuse sur Mélodie, où on voit un petit bateau. Mais il n'était pas grand, le bateau.
Oui, c'est ce qu'on appelle un riva, je crois.
Ouais, ça, oui, c'est ça.
Ouais, ça ressemble au sud de la France.
Ouais. Bon. Qu'importe. En tout cas, un dernier mot sur Claude Lemel. Il représentait beaucoup pour votre papa. Mais vous aussi, je crois que c'est devenu quelqu'un de très proche pour vous.
Ah, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup parlé de mon père.
Ouais.
Pareil, de l'homme qu'il pouvait être. Et au boulot, il disait qu'il était attachant.
Oui.
Et qu'il était très, très perfectionniste. Je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu repris de lui. Et il pouvait passer un jour, un mois sur un mot.
C'est terrible.
Il était très, très méticuleux. Ça doit faire partie du succès des chansons aussi. Hein.
Mais Delannoy, il disait qu'il est venu jusqu'à. Dassin est venu jusqu'à Deauville, les enquiquiner pour. Enfin, le texte n'allait
l'été
pas
indien.
Bien. Pour l'été indien.
Qui connaît l'été indien? Qui connaît Marie-Laurencin?
Ouais. Et finalement, ça a été.
C'était le plus gros succès de Joe Dassin.
L'amitié, c'était quelque chose aussi de sacré pour votre père? Je pense que vous parlez de Michel Audiard, de Carlos, de tous ces gens.
Il était très. Son meilleur ami, c'était Carlos.
D'accord.
C'était deux érudits. Carlos, c'était le fils de Françoise Dolto.
Dolto.
Deux érudits brillants, avec un bagage universitaire très important. Il parlait plusieurs langues.
Et votre père avait un doctorat aussi, d'ailleurs.
Oui. Et Carlos, pareil, était brillant, avait beaucoup d'études. Et au final, quand ils étaient tous les deux, ils n'arrêtaient pas de déconner. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment les deux bouts en train. Et toutes les chansons de Carlos, c'est plus rigolote pour moi.
Seigneur Météo.
Seigneur Météo, Big Bisou,
ouais.
Bougalou du Loup-Garou.
Ah, Big Bisou, c'est Dassin,
ouais,
ok.
C'est Dassin aussi, ouais.
Ok.
Et vous le voyez, il y avait une émission des Carpentiers où ils font Bougalou du Loup-Garou. Et Carlos arrive habillé presque en cow-boy. Et mon père est habillé en loup-garou. Ça n'existerait plus aujourd'hui, ça. Et comme quoi,
il s'éclatait.
Il s'éclatait.
Ils étaient stressés, tiens. Le Joe Dassin de la scène paraissait très grand professionnel, un Américain, comme on le dit souvent. Mais est-ce qu'il était angoissé? Est-ce qu'il avait des angoisses par rapport à son métier à...
Ah forcément, on se remet en question tout le temps. On se remet tout le temps en question. Est-ce que quand vous sortez une chanson, quelle qu'elle soit, vous ne savez pas si elle va plaire?
Ouais.
Donc forcément, vous posez des questions tout le temps. Oui, il se posait beaucoup de questions.
Et vous aussi?
Toujours.
Quand vous montez sur scène, vous parcourez le monde.
Tout le temps, tout le temps. On me dit, oh, t'as l'habitude. Non, on n'a pas l'habitude.
On prend pas l'habitude.
On n'a pas l'habitude. Tous les soirs, les gens sont différents. Les cultures, les pays, tout est différent. Et vous, et moi aussi. Il y a un soir où on peut être un peu, je sais pas, fatigué, stressé, et pas donner la même chose. Il faut se battre pour être toujours au top, au top, au top.
Mais quel était le point commun, justement, avec votre papa?
Perfectionnisme.
Ok.
Ouais, ça, bon.
C'est clair comme ça.
Tout est pareil. J'ai essayé de faire tout au millimètre.
Ouais.
Et si ma bouteille d'eau est là, il faut pas qu'elle soit là.
Et sinon vous êtes perdu.
Sinon je suis perdu. Alors c'est vrai qu'en radio on voit pas. Mais...
Oui, bah là en plus tout est un peu caché, tout est un peu feutré, mais.
Mais c'est vraiment au millimètre.
Ok.
Parce que, je prends cet exemple de bouteille d'eau, mais c'est, tout est comme ça.
Oui.
Je dois donner le meilleur de moi-même quand je suis sur scène.
Comme lui.
Les chansons, elles n'ont plus aucune preuve à faire. Hein. On les connaît toutes.
Une bonne recette, vous dites, dans le livre.
Parfaite. Maintenant, si vous ne faites pas, si je ne fais pas bien le job,
ça rime
à rien.
C'est
pas que la musique. Hein. C'est pas que la musique, c'est un tout. C'est un tout. Se présenter, être habillé sur scène, se présenter convenablement devant le public et donner le meilleur tous les soirs. Ça change.
C'est marrant que vous parlez d'habillement, vous n'avez jamais cherché à vous mettre en blanc,
non,
comme lui.
Non, non, mais je ne suis pas un clone de Julien
Lassin,
hein. Je suis Julien Lassin, j'imite pas, je baisse pas ma voix.
Oui.
Non.
Ouais.
Non, c'est, je chante du Joe Dassin, mais je suis Julien Lassin.
Et peut-être que le soir, c'est une chanson de Sardou, ça aussi, dans le halo du projecteur, peut-être qu'il vous regarde...
À chaque fois que je monte sur scène, je regarde les spots et je fais aidez-moi.
Aidez-moi ?
Aidez-moi.
Bah, papa, maman,
papa, votre
grand-père,
ma famille.
Ouais.
Mais je le fais tous les soirs, c'est un toc.
Avant de monter sur scène ?
Je sais pas, ouais, je fais ça. Et pourtant, mais t'as l'habitude. Non, je suis pété de trouille, il n'y a pas d'autre mot.
Ouais, à chaque fois.
À chaque fois.
Et après, le meilleur moment ?
Le meilleur moment, c'est de voir d'imaginer que des gens ont pu passer. L'exemple du chauffeur-livreur,
ouais,
qui peut-être toute la journée a été dans les bouchons, a passé une journée plutôt compliquée, et le soir, pendant 2 heures, on va lui donner du plaisir, et qu'il a la banane en sortant.
C'est beau. En tout cas, des belles anecdotes, il y en a dans cet ouvrage. Je le rappelle, il était une fois, nous deux. Vous parlez d'archives dans votre ouvrage, justement,
oui.
Mais malheureusement, on n'a plus d'archives de Joe Dassin parce que la maison a brûlé.
A brûlé.
C'est ça. Donc là, on a toutes les chansons. Il n'y aura plus jamais un master qui...
Personne ne sait ça.
Ok.
Il a enregistré dans beaucoup de studios, dans beaucoup de pays. Est-ce qu'il y a une bande oubliée dans un placard quelque part ? Allez savoir.
Ouais.
Le dernier inédit qu'on ait trouvé, c'est justement 2005. Depuis l'année dernière... En fait, je vois une bande 24 pistes chez moi,
ouais,
sur lequel il y a écrit l'Amérique, l'été indien, enfin tous les titres qu'on connaît. Je me dis, bon, pas la peine de l'écouter, celle-là, on la connaît. On les connaît toutes.
Ouais.
Et en fait, en mettant en lecture, on tombe sur « Depuis l'année dernière ».
Qui est un peu le téléphone pleure de Joe Dassin, cette chanson.
Un petit peu,
un petit peu.
Et alors là c'est là où le boulot devient compliqué, parce que ça reste un travail.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on fait ? On la sort ou on la sort pas ?
Vous avez bien fait.
Oui, mais si j'avais appris qu'il n'en voulait pas, elle ne serait jamais sortie. Et en fait, là, ça y est, travail de détective, on va poser des questions à tout le monde, à Claude.
Ouais.
Et j'ai fait, mais tu te souviens de cette chanson ? Il me fait, attends, il cherche dans ses petits calepins. J'ai dit, pourquoi elle n'est pas sortie ? Bah parce qu'elle est de 75, et face à l'été indien, ils l'ont mis de côté. Et ils l'ont tout simplement oublié. Elle devait sortir, mais ils l'ont oublié.
Ouais.
Donc, ils voulaient la sortir, mais face au
succès, c'est fou d'oublier une chanson pareille. Ouais.
On retrouve ça. Est-ce qu'il y a d'autres inédits ? Non, je pense pas. Je pense pas, mais qui sait ?
Et pour moi, c'est une question ultra importante. Est-ce qu'il y a une chanson de Joe Dassin que vous aimeriez faire découvrir ? On parle des gros tubes.
Oh là là, tellement. Tellement.
Compliqué.
Oh, moi, j'aimerais faire un album face B.
Ouais, bien sûr.
Il y en a, mais des magnifiques, que les gens peut-être ne connaissent pas ou ont oublié, mais il y en a plein. La première femme de ma vie,
oui.
De ton côté du lit.
Anne-Sylène l'a reprise, tiens, ton côté du lit.
De ton côté du lit, ouais. J'ai pas entendu.
Claude Lemel l'a dit à ce micro aussi, du coup je suis allé voir.
Ah,
magnifique version d'Anne-Sylène de ton côté du lit. Ouais.
Le costume blanc qui résume bien la vie d'artiste. Il y en a plein. La première femme de ma vie, plein.
Elle faisait le trottoir. Ils l'ont tous enregistré. Là, tous les trois, je crois qu'ils l'ont tous fait.
La demoiselle de déshonneur. Bon, celle-là, on va dire qu'elle est un peu... Elle est moins d'actualité.
Bien sûr.
On est plus prude.
Bien sûr.
Ouais. Mais c'est une chanson que j'adore.
Ouais, dans Joe Dassin, de toute façon, tout est bon. Même ses reprises, Guantanamera,
oui.
ça me revient au fur et à mesure.
Plein.
Dans votre ouvrage, vous rétablissez aussi quelques vérités concernant votre maman. Et on va peut-être changer un peu de sujet. Vous pensez qu'il y a eu une injustice dans les médias, dans les biographies?
Il y a une terrible injustice auprès de ma mère. Ma mère est une jeune fille qui vivait en province. Province dans les années 70. Elle ne connaissait rien à ce métier. Elle ne connaissait rien aux strass, aux paillettes. Alors dire que ma mère adorait les projecteurs...
Ouais, ça, vous le dites.
C'est fort poussé. On voit cette première... Il y a une émission de télé qu'elle fait avec Michel Drucker, mon père et ma mère. Mmh. Et on voit que ma mère n'est pas du tout à sa place. Qu'elle est toute timide et elle a presque peur de tout ça.
Sous les projecteurs.
Et de dire qu'elle aimait les projecteurs, c'était faux. Il y a eu quand même une petite relation.
Mais c'est leur vie.
Sa relation a commencé avec ma mère pendant qu'il était encore avec sa précédente femme.
Oui, mais c'est leur vie finalement.
Oui, mais vous savez, c'est toujours pareil dans les histoires de couple. Oh oui, bah c'est celle qui lui a piqué. Bon. Et on a fait passer ma mère un peu pour une vamp. Mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, je veux vraiment le dire.
Et ça revient régulièrement dans les sites, dans
mais
les
parce
bios.
Parce que vous avez un biographe qui a repris une biographie d'un autre biographe, le costume blanc est plus blanc, il est gris. Hein,
ça, en tout cas, c'est la biographie de vous, Julien, du fils d'Assin, en compagnie de ses amis aussi. Je crois que vous avez interviewé pas mal de gens.
Beaucoup de personnes qu'on n'a jamais questionnées.
Ouais.
Des amis proches, que ce soit... Des amis, c'est drôle parce que ils se sont rencontrés dans un avion de retour de Grèce et ils avaient un ami en commun grec.
Mmh.
Et cette personne-là, Nikos Vernikos, je suis allé le voir et je lui ai dit, vas-y, raconte-moi. Ah, enfin.
Enfin.
Enfin, tu poses des questions. Pourquoi 45 ans après? Pourquoi? Je fais aussi un petit parallèle et comparaison avec ma vie actuelle, puisque au final, je continue à faire son métier. Et j'avais besoin de savoir plus de choses sur l'homme. Est-ce qu'il aurait aimé ce que je fais? Est-ce qu'il le faisait de la même manière? En fait, on se pose des questions tout le temps. Tout le temps. Et à 50 ans, je m'en poserai encore.
Ouais. Et heureusement qu'il y a des amis qui ont bien connu votre
papa. Évidemment.
Et aussi pour dire quelques vérités, on entend aussi, et je me suis posé la question, est-ce que je vous en parle? Mais allez, on parle des vérités, donc j'y vais. On dit tout et n'importe quoi aussi sur le milieu du showbiz, sur ce qui se passait derrière le showbiz.
Ce qui se passait, c'est connu.
Oui, mais comme on parle de Joël, on parle, voilà, une bonne fois pour toutes.
Alors Joël...
Morgensen, pour ceux qui nous écoutent.
Alors Joël, j'ai fait une interview avec Jacques Pessis.
Oui,
qui était fou,
radio.
Furieux. Parce qu'il me dit, Joël vivait, elle habitait chez Jacques. Et me fait, jamais, au grand Dieu, jamais, je n'ai vu ton
ce
père.
Ce qui se passait.
Et Joël, non, prendre quoi que ce soit.
Voilà.
Et c'est faux. Bon, déjà, je suis très content de le savoir. Mais en même temps, et puis après, c'est de la logique tout bêtement, Joël est décédé quelques années plus tard.
Mmh. Oui, elle avait fait quelques albums qui n'ont pas forcément marché.
Non, je parle de sa vie, hein. Décédée.
Oui, je sais.
Donc,
Joël Morgensen, elle a fait quelques albums qui n'ont pas marché.
Ah oui, pardon.
Et puis après, elle est décédée.
Non, mais ça ne peut pas être toutes ces histoires. Voilà, c'est trop d'histoires.
Donc voilà, mais c'est bien de le dire parce que ça revient régulièrement. Donc,
Vous savez, un artiste, il n'a pas le droit de mourir normalement.
C'est vrai ce que vous dites.
Il n'y a pas le droit de mourir normalement. Il faut que ce soit spectaculaire.
Mm.
Et même quand ils sont morts, ils sont toujours en vie. Vous savez que Michael Jackson est sur une île avec mon père, Johnny.
Ils doivent bien s'amuser.
Ils sont tous en vie.
En tout cas, s'ils sont là-haut, ils doivent bien s'amuser tous.
Mais oui. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir leur vie est hors norme et leur décès doit être hors norme.
En discutant avec vous, il y a un extrait qui me revient de l'émission de Patrick Sébastien, de l'autre côté du miroir. Où il se retrouve face à votre père, Patrick Sébastien, grimé en Joe Dassin.
Oui.
Et Carlos est face à lui et il est presque en pleurs.
Oui, je me souviens.
Il partait à la pêche au gros, ils cherchaient tous les deux et ils cherchaient le marlin, je crois que c'est ça.
Ils avaient une passion pour la pêche au gros, les deux.
Une amitié terrible, encore une fois.
Et la Polynésie.
Et la Polynésie. Je parle de ça pour inviter le public à retrouver aussi ces beaux extraits. Aujourd'hui, bon, on revient encore une fois à 45 ans. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de votre papa ? Parce que maintenant, il est entré dans la postérité. Vous poursuivez sa carrière.
Oui.
Qu'est-ce qu'on retient de, qu'est-ce qu'on pourrait retenir qu'est-ce de Joe Dassin ?
Juste que c'était presque un homme parfait. Je n'ai jamais, ouais, en 45 ans, entendu quelqu'un me dire du mal de mon père. Jamais. L'homme parfait. Il n'a jamais fait de bêtises.
Oui, il ne parlait pas politique, vous le dites dans le livre.
Pas de politique, pas de religion, pas de quelqu'un. Ça revient tout le temps. Qu'est-ce qui était charmant ? Qu'est-ce qui était poli, courtois ? Jamais quelqu'un m'a dit « Oh là là, rien. Il n'y a rien de négatif. Bah, » Que cette image reste intacte, hein, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, hein, c'est pour laisser cette image intacte et qu'on arrête d'écouter les fables et exagérations qu'on trouve sur Internet.
Bien sûr. Un biopic, peut-être ? C'est une question qui me vient comme ça.
Non, c'est pas
en préparation.
C'est pas prévu.
Bon. En tout cas, on retrouve de belles anecdotes dans ce livre « Il était une fois, nous deux, Joe Dassin, mon père », aux éditions L'Archipel. Et puis, je vais rappeler votre promo, parce que là, je me suis noté quelques dates. Il y a une tournée d'été.
Tournée d'été dans le Sud.
Ouais.
Octobre, je retourne...
Alors, il y a Liège. Là, je l'ai à partir de... C'est ça ?
Vous les avez sous les yeux ?
Oui, j'ai quelques dates, mais j'ai pas tout. Alors, on va voir si on est bon. Liège, le 15 novembre, Alès, le 7 août. Ah bah, tu vois,
c'est tout mélangé, là.
Ah, c'est tout mélangé.
Non, alors, en premier, il y a en août, 7 et 8, je suis dans le sud de la France.
Alès et Toreil.
Et Toreil. En octobre...
Sanary.
Non, en octobre, je suis... Ah oui, au début, je suis à Sanary.
Le 11 octobre, Sanary-sur-Mer. Le 12, Le Canet, près de Cannes. Près de chez moi, bravo.
Et le 23 octobre, je démarre...
22, Saint-Jérôme, Canada. 22
voilà,
octobre.
22.
Montréal, après le 23. Ça nous fera un peu loin pour venir vous applaudir, mais on passera fort à vous. Et 24 aussi, Montréal. Et j'ai aussi le 15 novembre, à Liège, en Belgique. C'est au Forum.
Exactement.
Nos amis du Forum. Bah, écoutez, merci beaucoup, Julien, d'être venu... nous voir sur Mélodie Radio.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Et à très bientôt.
Bonne journée.
Mélodie, la radio vintage forever.